Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça faisait longtemps que les autorités n'avaient plus comptabilisé plus d'un million de manifestants contre un projet gouvernemental. Plus d'un million d'opposants à la retraite à 64 ans comptés par la police dans toute la France. Aujourd'hui, la CGT parle de 2 millions de manifestants. Paris réussit, en tout cas pour l'intersyndicale, pour cette première grande journée de mobilisation. D'autant qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. D'autres dates de manifestation devraient être annoncées ce soir. Nous allons largement en parler avec notamment Fabien Villedieu du syndicat Sudrail, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, ou encore Raymond Soubi, spécialiste des mouvements sociaux, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Il nous rejoindra après 19h40. Vous nous appelez au standard d'Europe 1, le 3921, pour réagir et intervenir à l'antenne. Les manifestations du jour sont bien évidemment à la une du journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et oui, ce sera l'essentiel de ce journal. Mobilisation d'ampleur, vous l'avez dit, dans toute la France. Nous serons dans les cortèges parisiens et nantais. Nous ferons le point sur aussi l'ampleur des mobilisations dans toute la France et sur ce que ça peut changer pour l'exécutif. Les syndicats sont réunis en ce moment pour décider de la reconduction du mouvement. Dans ce journal également, le distributeur d'articles sportifs, groupe GoSport, en redressement judiciaire. Et puis l'événement de ce soir pour les amoureux de basket, les Chicago Bulls face aux Detroit Pistons à 21h à Paris. Un match de NBA à guichet fermé.
Voilà pour les titres du journal. Je vous rappelle le numéro du standard d'Europe 1, le 3921. Vous nous appelez pour intervenir après le journal d'Hélène Zélani. On va largement parler de cette première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël. 8 départements du sud-ouest placés en alerte orange en raison d'un nouvel épisode de neige ce soir et cette nuit. Ça se passe entre la Dordogne, l'ouest du Languedoc et le Roussillon. Quant à la journée de demain, elle s'annonce plus calme que ces derniers jours dans une ambiance qui va quand même rester froide. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1.
À Paris comme en région, mobilisation très conséquente, très importante en ce premier jour de protestation contre la réforme des retraites.
Oui, on va revenir en détail sur les chiffres, mais d'abord, direction la manifestation parisienne. Vous la suivez depuis 14h, Thibault Hue, elle est terminée ?
Non, pas encore. Le cortège est en train d'arriver dans le calme, place de la Nation, point d'arrivée de la manifestation. Une vraie marée humaine, une marée de banderoles, de drapeaux. On peut lire par exemple « Stop à la casse de nos retraites ». Et parmi les très nombreux manifestants, certains sont descendus dans la rue pour la première fois. C'est le cas de Pascal, il a 50 ans et ne peut pas imaginer travailler plus longtemps avec de gros problèmes de santé.
Je commence à être fatigué. J'ai eu des problèmes cardiaques, des choses comme ça, donc je suis arrivé à bout, quoi. J'avais prévu une petite retraite en Bretagne, tranquille. Et donc là, un an de plus, ça va être compliqué, quoi. Parce que j'arrive déjà à la fin, donc ça fait tomber tous les plans à l'eau.
Anaïs aussi est en colère pour cette cadre de 57 ans. 2 ans de travail en plus, c'est beaucoup trop.
J'ai envie d'arriver à la retraite encore en forme pour pouvoir en profiter un petit peu. J'ai des petits-enfants, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants, j'ai envie de vivre, c'est tout. Et mes petits-enfants, ils m'attendent pour pouvoir faire des choses. C'est ce que je demande, c'est juste une réforme juste, équitable, avec une contribution de tous et pas que des salariés. On n'a pas à se laisser faire.
Voilà, et malgré quelques tensions qui ont éclaté au milieu du cortège vers 16h, à 2 pas de la place de la Bastille, entre les manifestants et forces de l'ordre, c'est surtout la ferveur que l'on sent ici ce soir, place de la Nation, et l'envie de redescendre dans la rue si le gouvernement ne recule pas sur la réforme des retraites.
Thibault Hue dans la manifestation parisienne.
Et les franciliens n'étaient pas les seuls à défiler aujourd'hui. Loin de là, on a manifesté dans toute la France.
Grande ou petite ville, même combat. Nous partons à Nantes pour retrouver le correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. 25 000 personnes dans la rue selon les autorités, mais plus du double selon les syndicats. Reportage.
Moi je travaille en maternelle, clairement, c'est les enfants qui changeront mes couches peut-être, voilà.
À 59 ans, Marie ne se voit pas continuer son métier d'assistante maternelle pendant encore 5 ans.
Physiquement, ça devient difficile, donc bien évidemment je n'atteindrai pas en pleine santé l'âge de la retraite. C'est pas pensable.
À Nantes aujourd'hui, ils étaient au moins 50 000 à avoir également pensé que partir à la retraite à 64 ans n'était pas pensable. Une mobilisation d'ampleur quasi inédite ici qui a rassemblé toutes les générations. Par exemple, Lazare, 10 ans, aurait pu aller en classe, son enseignant ayant assuré les cours, mais il a préféré accompagner ses parents dans le cortège, malgré la pluie.
C'est plus important d'être là pour mon avenir que d'être à l'école.
Quant à Émilie, 37 ans, elle ne se voit pas, elle non plus, travailler encore plus d'un quart de siècle.
Disons que moi, j'ai pas un métier qui a une pénibilité par rapport à d'autres, mais par contre, je serais peut-être pas aussi performante à 60 ans que maintenant. Est-ce que c'est eux qui voudront me garder ? C'est plutôt ça.
Et à noter que la manifestation s'est déroulée sans aucun débordement, ce qui à Nantes n'était plus arrivé depuis près de deux décennies. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et pour la CGT, il y avait plus de 2 millions de manifestants dans tout le pays aujourd'hui.
Hein. Oui, chiffre que donne ce soir Philippe Martinez. Avec les autres représentants syndicaux, il est en ce moment au siège parisien de Solidaires pour décider de la reconduction de la grève et fixer la date. Un peu plus tôt, dans la manifestation parisienne, Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, saluait déjà l'ampleur de la mobilisation.
Il n'y a pas que la manifestation parisienne, il y a aussi les manifestations partout. Il y a une grosse mobilisation au-delà de ce que prévoyaient y compris les renseignements territoriaux. Donc oui, c'est une énorme mobilisation comme on n'avait pas connu depuis très longtemps. Dans les jours à venir, il faut que nos adhérents, nos militants, aillent convaincre les salariés du côté néfaste de cette réforme, aillent les convaincre d'aller rencontrer leurs parlementaires pour leur expliquer leurs conditions de travail réelles, prennent le temps de faire des actions de sensibilisation et puis on aura d'autres moments de manifestation s'il n'y a rien qui bouge ici-là.
Laurent Berger au micro Europe 1 de Noah Moussa.
Alors, combien de personnes dans la rue ? Beaucoup, ça c'est évident. On se souvient que les syndicats avaient fixé ce seuil 1 million.
Oui, ils ont donc gagné leur pari, William Molinier. Selon les chiffres des autorités que vous avez pu vous procurer, on est même au-dessus du million.
Oui, au-dessus du million de manifestants à 17h de sources policières. Chiffre national qui ne prend pas en compte la manifestation parisienne. Les chiffres officiels de la place Beauvau ne sont pas encore connus. Mais en coulisses, on parle d'1,2, 1,3 million de personnes dans les rues aujourd'hui. En région, les cortèges les plus fournis étaient à Toulouse, 36 000 personnes, Marseille, 26 000 ou encore Lyon, 23 000. Quelques incidents à Rennes. 150 jeunes ont rejoint une soixantaine de membres de l'ultra-gauche. Des vitrines d'une banque, d'agences immobilières et d'assurances ont été dégradées. À Paris, les forces mobiles sont intervenues de façon sporadique pour empêcher des actes de vandalisme. Policiers et gendarmes ont essuyé des jets de pierre, de barres de fer et de bouteilles en verre. Depuis le début de la journée, 38 personnes ont été interpellées dans la capitale, la plupart pour port d'armes prohibées, outrage et jets de projectiles.
William Molinier, on rappelle donc que selon les autorités, on est entre 1,2 million et 1,3 million et que la CGT parle de plus de 2 millions de manifestants.
Voilà, beaucoup de monde dans les rues de France aujourd'hui et pendant ce temps, le président était à l'étranger, Emmanuel Macron à Barcelone pour sceller l'amitié franco-espagnole.
Le président qui en général refuse d'évoquer les questions de politique intérieure quand il est en déplacement a cette fois accepté de réagir aux manifestations. Il espère qu'il n'y aura ni débordement ni violence mais fait également part de sa détermination pour aller jusqu'au bout d'une réforme démocratiquement validée.
Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
Emmanuel Macron à Barcelone, au micro Europe 1 d'Arthur Delaborde. Plus d'un million de manifestants dans la rue ou deux. Le président, on l'a entendu, parle d'une réforme juste et responsable. Mais est-ce que cette affluence dans la rue change la donne pour l'exécutif, Jacques Serret ?
Eh bien, en tout cas, ce soir, on ne peut pas dire que règne une grande sérénité du côté de l'exécutif. Des conseillers un peu sonnés par les images de cette première journée de mobilisation. Les propos d'Olivier Véran la semaine dernière reviennent comme un boomerang. Le gouvernement ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, expliquait le porte-parole. On a présenté la réforme en se disant qu'au fond, les Français étaient résignés, qu'il y aurait peu d'opposition, reconnaît un cadre de la Macronie. Désormais, le ton est donné et il est clair, celui d'un bras de fer beaucoup plus coriace que ce qu'imaginait une partie du gouvernement. Pour autant, est-ce que cela va changer quelque chose à cette réforme? La réponse est non. Les rares concessions qui auraient pu calmer la grogne ont déjà été données, estime-t-on du côté de Bercy, comme l'âge légal fixé à 64 ans au lieu des 65 ans prévus initialement, ou encore la pension minimale à 1200 euros pour les retraités ayant une carrière complète au SMIC. On ne bougera pas, on ne le peut pas, sinon le président perd toute crédibilité pour les 4 prochaines années, résume un conseiller de l'exécutif. Le texte sera donc présenté en Conseil des ministres lundi, comme prévu.
Jacques Serret, en ce qui concerne la grève, elle a également été très suivie, 46% à la SNCF, des difficultés de circulation dans les transports franciliens mais aussi en région, dans l'éducation 42% de grévistes en primaire, 34% dans le secondaire selon le ministère de l'Intérieur. Et puis dans les raffineries, entre 70 et 100% de travailleurs étaient en grève ce jeudi. Les livraisons de carburant étaient suspendues. Enfin, la CGT, qui avait menacé de coupures d'électricité les communes d'élus favorables à la réforme, revendique 2 coupures volontaires à Massy dans l'Essonne et à Chaumont en Haute-Marne. Enedis, qui condamne fermement ces actions, va porter plainte. Notez enfin que demain, le vendredi thématique d'Europe 1 sera consacré aux retraites.
Voilà, refermons ce chapitre grève et manifestation. Penchons-nous sur le reste de l'actualité avec cette mauvaise nouvelle pour Gosport.
Oui, et pour ces 2160 salariés, le tribunal de commerce de Grenoble place le groupe en redressement judiciaire après avoir constaté son état de cessation de paiement. Et maintenant, Jean-Luc Boujon, qu'est-ce qui va se passer ?
Effectivement, la question se pose car redressement judiciaire ne signifie pas liquidation judiciaire. Ce n'est pas la fin de l'activité de Gosport. Redressement signifie en fait que la société est placée sous la protection du tribunal de commerce et donc que les actionnaires actuels sont en quelque sorte débranchés. Ce ne sont plus eux qui dirigeront l'entreprise, contrairement à ce qu'ils souhaitaient. Et ça, c'est une bonne chose aux yeux de Christophe Laval, délégué force ouvrière au CSE.
C'est pour nous la moins pire des décisions. Le tribunal de commerce n'a pas été dupe des explications des actionnaires qui nous baladent depuis 12 mois sur leur gestion incompétente et malveillante. En fait, le tribunal du commerce va garder un œil sur Gosport et va mandater un administrateur judiciaire qui va administrer l'entreprise afin de garantir que durant une période d'observation, elle ait les moyens de se relancer.
Se relancer pour trouver un nouvel actionnaire, c'est l'espoir des salariés. Espoir fondé, hein, puisque Gosport reste aujourd'hui le 3e distributeur d'articles de sport en France. Surtout, les salariés ne veulent plus entendre parler des dirigeants actuels, les mêmes que ceux qui ont précipité la chute de Camailleux et qui, au passage, pour renflouer l'enseigne de prêt-à-porter, ont ponctionné les comptes de Gosport. D'ailleurs, une enquête pour abus de biens sociaux a été engagée, on l'a pris hier, contre ces mêmes dirigeants.
Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Aucune dérogation possible face à l'interdiction européenne des semences traitées aux néonicotinoïdes, un insecticide très néfaste pour les abeilles. C'est valable aussi pour la filière française de la betterave qui avait eu le droit de les utiliser fin 2020 parce qu'elle était en grande difficulté. Aux États-Unis, l'acteur Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire. Même chose pour l'armurière du film Rust, en tournage au Nouveau-Mexique en 2021. Alec Baldwin avait tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur avec une arme qui n'aurait pas dû être chargée.
Un peu d'Amérique à Paris ce soir. Un match de basket de NBA se joue à l'Accor Arena.
Oui, Détroit contre Chicago à 21h. Les 14 700 places se sont vendues en une demi-heure. C'est dire l'attente que suscite ce match, Martin Lange.
Oui, Hélène, les portes viennent d'ouvrir à l'instant. Les spectateurs s'installent alors que les joueurs débutent tout juste leur échauffement. Vous l'avez dit, l'Accor Arena devrait être pleine à craquer ce soir. Plus de 15 000 spectateurs sont attendus avec des people aussi, hein, notamment les pilotes de Formule 1, Pierre Gasly ou encore Charles Leclerc. Pour ce match, Chicago face à Détroit, deux équipes historiques de la NBA. Les Bulls de Michael Jordan face aux Bad Boys de Détroit. C'était un des classiques des années 90 outre-Atlantique. Mais en 2023, on peut le dire, hein, ce match n'a plus tout à fait la même saveur. Les deux équipes sont un peu larguées au classement, mais on guettera quand même un petit Frenchie du côté de Détroit. Kylian Hayes, le meneur de Détroit, le joueur qui pourrait participer aux Jeux Olympiques avec les Bleus en 2024. Mais comme toujours avec la NBA, le spectacle sera tout autant sur le parquet qu'à côté, avec notamment des danseurs, un grand concert à la mi-temps et des paillettes. Le début de tout ça, Hélène, c'est dans un peu moins d'une heure.
Et Martin Lange, vous nous ferez vivre cette rencontre de NBA à Paris en fil rouge dans Europe 1 Sport. Vous l'avez dit donc, le coup d'envoi, c'est à 21h. Autre rencontre de football, cette fois le PSG affronte une sélection de joueurs saoudiens à Riyad. Sportivement, elle n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est un match de gala. La photo est belle, jugée plutôt d'un côté Messi, Mbappé, de l'autre côté Ronaldo, la nouvelle recrue d'Al Nassr. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité de partout à la mi-temps. Un déplacement qui devrait rapporter 10 à 15 millions d'euros au PSG. Voilà qui nous amène au marché financier avec Didier Hamot de Boursier.com. Didier, forte baisse à Paris.
Oui, il fallait bien que ça arrive. Le CAC 40 repasse sous les 7000 points. Une baisse assez nette, oui, moins 1,86%, 6951 points. Après une forte hausse de 9% depuis le début de l'année, le marché temporise et s'inquiète aussi de certains indicateurs de conjoncture qui pointent vers la récession aux États-Unis et en Europe. Et donc, les valeurs industrielles retombent. On a Eramet qui recule de 3,7%, Alstom moins 3%, Schneider moins 3,6%, Valeo moins 5%. Ailleurs, c'est pareil. La bourse de Francfort recule d'1,7%, Bruxelles moins 1,8%, Milan moins 1,7% aussi. Et le CAC 40 donc en baisse de 1,86%, 6951 points.
Merci Didier Hamot.
Et merci à vous Hélène Zélani. À tout à l'heure pour un nouveau journal. Il sera 20h sur Europe 1. Allez, la météo avec Marlène Duret. Marlène, prudence dans vos déplacements dans le sud-ouest ce soir et cette nuit en raison de la neige.
Et oui, la neige qui nécessite de placer 8 départements en alerte orange jusqu'à demain matin 6h. La Dordogne, le Lot, le Tarn et Garonne, l'Aveyron, le Tarn, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors les incertitudes portent surtout sur les quantités, notamment sur les zones littorales du Languedoc-Roussillon où il pourrait y avoir juste un petit saupoudrage, voire de la pluie. Incertitude également dans la région toulousaine, la région d'Agen, il pourrait y avoir 2-3 cm, mais quelques... Allez, quand on va un petit peu plus à l'est, quelques kilomètres plus loin, et bien là, les quantités s'annoncent quand même plus importantes.
Et demain, retour au calme ?
Oui, on va retrouver des conditions anticycloniques avec plus d'éclaircies quand même. Attention au verglas, là où les chaussées seront humides ou enneigées, notamment dans le sud-ouest. Hein. Mais bon, la perturbation neigeuse se sera évacuée. On va retrouver un temps de plus en plus sec dans le sud-ouest et même de plus en plus lumineux. Attention également aux brouillards givrants. Ils seront assez fréquents en Normandie, dans le centre-val de Loire, en Ile-de-France. Quelques giboulées ou des petites chutes de neige qui peuvent se produire encore le long des frontières du Nord, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce ne sera pas partout et pas tout le temps. Côté Méditerranée, c'est du soleil et du vent. Et on termine par les températures. Elles vont baisser un petit peu dans le sud-ouest. Ailleurs, bon, elles vont rester sensiblement équivalentes à celles d'aujourd'hui. Les maxi, grosso modo, en général, entre 2 degrés à Besançon et 8 à Caen. Un petit peu plus dans le sud-est avec 9 à 12 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va encore faire plus froid ce week-end. Les températures vont baisser. Et cette fois, le froid va gagner le sud-est. C'est la différence avec l'épisode de froid en décembre, vous vous souvenez, là le froid va s'enfoncer jusqu'en Méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Duret, on vous retrouve tout à l'heure à 23h pour un nouveau point sur la météo. Restez avec nous, on va revenir sur la principale actualité d'aujourd'hui, la grande manifestation contre la réforme des retraites à Paris, les grandes autres manifestations partout en France, des chiffres très impressionnants en région. Tiens, le ministère de l'Intérieur vient de publier son estimation de fin de journée. 1 120 000 manifestants dans toute la France aujourd'hui, dont 80 000 à Paris. Ce sont les chiffres, je le rappelle, du ministère de l'Intérieur. Venez réagir sur l'antenne. Appelez-nous au standard d'Europe 1, le 39-21. A tout de suite.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Nous parlons donc ce soir de cette très forte mobilisation contre la réforme des retraites partout en France. Aujourd'hui, je vous rappelle le chiffre du ministère de l'Intérieur, 1 120 000 manifestants, dont 80 000 à Paris. La CGT parle de plus de 2 millions d'opposants à la réforme des retraites, la retraite à 64 ans. Vous nous appelez au 39-21 pour réagir à l'antenne. Fabien Villedieu du syndicat Sudrail reste sur Europe 1 encore quelques minutes. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, est également avec nous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors vos impressions, vos réactions à cette journée, ce chiffre du ministère de l'Intérieur qui vient d'être publié, plus d'un million d'opposants à la retraite à 64 ans, Fabien Villedieu.
Ah bah c'est un succès manifeste, voilà. On attendait, on espérait un million de personnes. On déplace, alors moi je ne vais pas rentrer dans le débat, chiffre police, chiffre organisation syndicale, je ne prendrai rien que les chiffres de la police, on va dire. Et aujourd'hui, même si on prend les chiffres de la police, c'est plus d'un million de personnes.
Tout à fait.
1 520 000, c'est-à-dire bien au-dessus que le nombre de manifestants qu'il y avait en 2019, parce que je crois qu'en 2019, de mémoire, le 5 décembre, on n'avait pas dépassé les 800 000. Donc, c'est un succès énorme. Par ailleurs, il y a eu peu ou pas du tout de casse. Voilà, donc ça évite à chaque fois qu'on passe son temps à
une
parler.
Une trentaine d'interpellations, ce qui est relativement faible, il faut bien le reconnaître. Voilà, même Elisabeth Borne, hein, la première ministre, le reconnaît à l'instant. Elle salue le rôle des forces de l'ordre et des syndicats également pour le bon déroulement des manifestations. C'est qu'elle le reconnaît elle-même. Pas bien vite lieu.
Donc c'est un succès, de ces deux points de vue-là. Et je pense qu'il y en a au gouvernement qui doivent se creuser le crâne pour savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer ce soir ou à partir de demain. Parce que la situation, pour l'instant, je pense qu'on a gagné un point.
On va le savoir tout de suite. Jacques Serret du service politique nous rappelait pendant le journal cette phrase d'Olivier Véran à la sortie d'un conseil des ministres, c'était il y a deux semaines. Nous ne nous projetons pas, il parle du gouvernement, vers une mobilisation massive. Bon. On ne peut pas dire qu'il y avait peu de monde dans les rues aujourd'hui, Sylvain Maillard.
Non, la mobilisation est importante. Elle est importante et ne nie absolument pas la mobilisation. Il n'y a rien à nier. Ça veut juste dire pour nous qu'on doit encore plus essayer de convaincre.
Rétrospectivement, quand on revoit la phrase.
Et dissiper les.
Vous n'y attendiez peut-être pas.
Là, je ne vais pas commenter les phrases d'Olivier Véran. Je crois qu'il y a eu un acte majeur aujourd'hui, un acte social important. Et donc, moi, je veux dire que la mobilisation est importante. Ça veut dire aussi pour nous et pour moi, comme mes collègues députés de la majorité, c'est-à-dire qu'il faut encore plus convaincre. Il faut dissiper peut-être les malentendus ou ce qui n'a pas été bien expliqué. Parce que, encore une fois, nous, c'est une réforme qui demande des efforts, et c'est vrai, moi j'entends, hein, vous savez, on est sur le terrain, on entend beaucoup de personnes dire on n'a pas envie de travailler plus. Mais en même temps, ces efforts que nous demandons, à côté de ça, on améliore vraiment la situation des pensions, on fait en sorte d'accompagner ceux qui sont les plus fragiles. Et puis, vous savez, je sors d'une audition cet après-midi, pendant que d'autres manifestaient, nous on était en une audition avec le Conseil d'orientation des retraites. Il l'a dit très clairement, c'est public, si nous ne faisons rien, sur les 25 prochaines années, c'est 500 milliards de dettes supplémentaires parce qu'il n'est pas à l'équilibre. Je vous invite à regarder.
À l'horizon 2032, il faut bien le préciser.
Sur les 25, oui, mais ça se cumule. 12
voilà.
plus 15,
on peut
plus
aller
15,
jusqu'à
plus 15.
20 milliards.
Ben oui, mais
si
en fait, tout ça se finance. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est garantir les retraites pour chaque Français. Le niveau des retraites et de faire en sorte que tous ceux qui sont en activité à l'heure actuelle soient sûrs d'avoir une retraite. C'est une réforme d'effort, mais c'est une réforme de justice sociale.
Fabien Villedieu vous répond, et j'ai une question à vous poser.
Les Français, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils l'ont compris, la réforme, ils n'en veulent pas. Ils ont besoin d'être entendus. Et pourquoi ? Il y a, à mon avis, deux ciments qui font que cette mobilisation a été un succès et qu'elle le sera demain si le gouvernement ne veut pas reculer. D'abord, les Français la trouvent injuste. Ils trouvent que cette réforme est injuste. Et les Français sont attachés à une forme de justice et la justice sociale. Et par ailleurs, les Français pensent que d'autres choix sont possibles. Enfin, à vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule politique en France. Il n'y a que cette politique-là. Non, il y a d'autres choix qui sont possibles. Parce que parallèlement, on nous explique que les caisses, a priori, de la sécurité sociale devraient être vides. La même semaine, on publie les chiffres des dividendes versé aux actionnaires, je ne parle pas des bénéfices, hein, parce que les bénéfices sont bien supérieurs aux dividendes, de 80 milliards de dividendes versés rien qu'aux actionnaires du CAC 40. Donc, pas tous les actionnaires.
Tous les syndicats ne sont pas sur cette
peut-être,
ligne.
Peut-être. Moi, j'ai mis une hypothèse.
Sudrail est un syndicat contestataire.
Écoutez, tous les syndicats, pour l'instant, sont unis. Voilà. Et il y a une unité syndicale.
Sur la même
et une des raisons du succès de la mobilisation d'aujourd'hui, c'est l'unité syndicale. Peut-être qu'il y aurait des pistes là-dessus. Il y aurait des pistes là-dessus sur, effectivement, un pôle de la société française qui a énormément de richesses et qui n'a jamais été aussi riche qu'elle n'est, peut-être qu'il y a des pistes là-dessus. Voilà, pour financer justement notre justice, notre système de retraite. Peut-être aussi, il y aurait des pistes. Moi, par exemple, là, il y a les mesures sur le pouvoir d'achat, notamment la prime Macron. Les Français ne le savent peut-être pas, mais la prime Macron, elle n'est pas assujettie à cotisations sociales. Peut-être qu'on pourrait mettre des cotisations sociales là-dessus, parce que les cotisations sociales, c'est ça qui alimente les caisses de la sécurité sociale. Donc il y a d'autres pistes et d'autres choix qui seraient possibles.
C'est pas du même niveau. Alors, s'il y a un critère dans cette réforme qui unit les syndicats, ça on l'entend dans la bouche de tous les responsables, la CFDT notamment, hein, qui détermine souvent l'ampleur des mouvements sociaux, c'est la retraite à 64 ans. Ça, tous les syndicats s'opposent à ce décalage de l'âge légal de départ. Sylvain Maillard, au moment où ce projet de loi, ce projet d'amendement pour être exact, a été dévoilé, c'était le 10 janvier dernier, ce soir-là, je me suis repassé des images, vous évoquiez dans les médias votre confiance. Après avoir vu ces mobilisations aujourd'hui, est-ce que votre confiance est la même le 19 janvier que le disent.
Nous devons porter cette réforme. On doit sécuriser les pensions. Je viens d'entendre...
Est-ce que sur les 64 ans, il y a quelque chose à faire ?
Mais nous, la réforme qu'on a portée et sur laquelle nous nous sommes fait élire, moi-même en tant que député de la majorité, c'était compliqué hein, quand on était en campagne au mois de juin d'expliquer que ce serait la retraite, c'était sur 65 ans. On a déjà fait un vrai bouger de 64 et 65 ans. Nous, on ne le fait pas pour le plaisir, c'est pour équilibrer nos retraites et être sûr qu'elles sont financées. Moi, j'ai entendu beaucoup de contre-vérités. D'abord, là, vous mélangez les choux et les chiffons. Honnêtement, vous dites y a des bénéfices de CAC 40 et puis on devrait... Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des cotisations qui payent les retraites. Donc, nous, ce qu'on veut garantir, c'est que le niveau des retraites, des pensions, restera constant et qu'il ne baissera pas dans le temps. Ça, je crois que c'est important. Le Conseil d'orientation des retraites nous a dit tout à l'heure, nous a redit que si, dans la trajectoire dans laquelle nous étions, ça baisserait entre 20 et 25% sur les 15 prochaines années. Et j'entends tout à l'heure dire que ce n'est pas une réforme de justice sociale. Est-ce que vous pensez que les retraites à l'heure actuelle sont des réformes, sont vraiment au niveau de la justice sociale ? Quand j'entends, nous, on propose d'augmenter à 1200 euros les retraites les plus basses. Est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas de la justice sociale ? Quand on veut améliorer les carrières longues et de faire en sorte que ceux qui sont le plus cassés, le plus abîmés partent plus tôt, est-ce que ça, vous trouvez que ce n'est pas de la justice sociale ? Quand les travaux d'utilité collective qui n'ont pas été les TUC, ce qu'on appelle les TUC, qui ne sont pas soumis à des cotisations, au fond, ne sont pas pris en compte dans les retraites, on le fait. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas de la justice sociale ? Moi, je dis juste que le système, à l'heure actuelle, a plein d'injustices et la seule chose qu'on nous dit, c'est surtout rien à voir circuler.
On marque une pause sur Europe 1 et puis on va entendre la réponse de Fabien Villedieu. Et puis on va vous entendre, vous, chers auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 39-21. Restez avec nous. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, merci d'être avec nous. Ce soir, nous sommes avec le député de Paris, député Renaissance, Sylvain Maillard, Fabien Villedieu du syndicat Sudrail. Et nous revenons sur cette grande journée de manifestation contre la retraite à 64 ans. 1 120 000 personnes dans les rues de France aujourd'hui. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Avant la pause, Sylvain Maillard, comme le gouvernement défendait le projet de réforme, un projet de justice sociale, si je reprends vos
d'effort,
mots.
D'effort et de protection du système. C'est
Fabien
vrai.
Villedieu vous répond parce que je crois qu'il n'est pas d'accord et il n'est d'ailleurs pas le seul.
Non seulement je ne suis pas d'accord, mais à la limite, mon avis, c'est pas ce qui est le plus important, c'est que les Français ne sont pas d'accord. Ils ne pensent pas que c'est de la justice sociale, que ce n'est pas du progrès social. Parce que si vous décalez de 2 ans, y compris les métiers pénibles, parce que les gens, je ne sais pas s'ils ont bien saisi, mais aujourd'hui, les 6 critères de pénibilité font que vous pouviez partir à 60 ans. Avec votre réforme, ils partiront à 62 ans. C'est-à-dire que, y compris les métiers pénibles, en 3-8, en horaire décalé, ils seront obligés d'avoir 2 ans de cotisation et de travail supplémentaire, y compris lorsque vous avez travaillé plus jeune. Alors, vous ne touchez pas pour ceux qui ont travaillé avant 16 ans. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui ont travaillé avant 20 ans, eux, ils devront travailler 2 ans de plus, y compris en ayant des années de cotisation supérieures aux 43 années. Et très honnêtement, aujourd'hui, dans le monde du travail, qui existe, il y a un problème de travail des seniors. Pourquoi vous ne vous attaquez pas au travail des seniors avant de décaler ? Aujourd'hui, les gens ne travaillent déjà pas à 62 ans. C'est-à-dire qu'à 62 ans, il y a 7 Français sur 10 qui ne travaillent déjà pas. Donc, plutôt que d'obliger les gens à décaler l'âge de départ à la retraite et qu'ils savent pertinemment qu'ils ne travailleront pas plus, on essaye de trouver et on oblige les entreprises à faire travailler les seniors parce qu'aujourd'hui, le sport national de la plupart des entreprises, c'est quoi ? C'est de se débarrasser de ces seniors.
Avec la complicité parfois des syndicats aussi,
très vite
là-dessus. Mais juste dire, sur la pénibilité, vous parliez du travail de nuit. Vous avez raison, c'est un travail pénible. Et on passe par exemple de 120 nuits à 100 nuits, faire en sorte que ceux qui travaillent justement de nuit puissent prendre leur retraite plus tôt. Ça, voilà une avancée.
À 62 ans.
Contrairement à 60 ans aujourd'hui. On va pouvoir baisser avec les critères de pénibilité ce qu'on appelle les C2P. Pareil, pour ceux qui sont en 3-8, faire en sorte de baisser les seuils et de reconnaître ceux qui font les deux, c'est-à-dire le travail de nuit et en 3-8, de faire en sorte qu'ils puissent partir à la retraite plus tôt. D'ailleurs, 4 Français sur 10 partiront avant les 64 ans. Et donc, il y a une attention particulière pour les travaux les plus pénibles. On continue à négocier avec les syndicats parce qu'en réalité, sur ces critères-là, Il y a des vraies avancées, mais de faire en sorte que ceux qui peuvent travailler plus longtemps travaillent plus longtemps. Les autres seront protégés et on les protégera plus qu'à l'heure actuelle.
On va écouter Thomas qui nous appelle au 39-21. Bonsoir Thomas. Thomas ? Thomas n'est pas avec nous. Ah si, on vous entend, ça y est, bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez manifesté aujourd'hui, vous avez suivi ça sur un écran ou vous avez appris l'ampleur de la mobilisation sur Europe 1 peut-être ?
Je suis avec intérêt tout ce qui se passe sur votre antenne depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs années, parce que c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, mais j'ai pas manifesté, j'irai pas manifester, j'ai jamais manifesté justement, parce que de toute façon, si on veut s'en sortir, c'est en travaillant. Aujourd'hui, on veut manifester pour contre les retraites, mais si on passe pas la réforme, on va aller à la retraite à 62 ans ou à 60 ans, voilà. Mais on n'aura même pas plus de quoi vivre à la retraite. Mmh. On est d'accord. Hein. Mmh. Si je résume, c'est ça. Donc j'ai entendu certains auditeurs ou certaines personnes interviewées voulant partir plus tôt pour être en forme, mais elles seront plus pauvres. Donc voilà. Je ne sais pas ce que proposent les syndicats aujourd'hui, j'arrive jamais à comprendre. On ne veut pas de réforme, mais derrière, je ne sais pas où on va aller chercher cet argent pour payer tout ça. Alors, j'ai peut-être une idée, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je me dis qu'en allant chercher les réformes sur le chômage et en valorisant le travail et en arrêtant l'assistanat, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais est-ce que ça engendrerait pas d'autres manifestations sans cesse, etc. Je ne sais pas.
Si j'ai bien compris, Thomas, vous défendez, vous, la valeur travail, valeur importante, si j'ai bien compris. Fabien Villedieu, c'est vrai qu'on a le sentiment, dans les rangs, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, dans les rangs des opposants à cette réforme du travail, de la réforme des retraites, il y a en fait un rejet du travail. On ne veut pas travailler plus longtemps, on ne veut pas travailler, en fait.
Bah non. Non,
c'est le sentiment qu'ont certains Français à l'image de Thomas qui nous appelle au 39-21.
Je vais essayer d'expliquer que c'est pas un bon sentiment parce que moi, les syndicats travaillent énormément justement pour l'emploi, voilà, et pour les embauches. Et on se bat contre les licenciements, contre les plans sociaux. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de « ah bah super » quand les entreprises se débarrassent de leurs salariés. Au contraire, moi, je passe mon temps à essayer d'embêter mon patron pour qu'il embauche. Parce que justement, voilà...
Certains militants de la CGT, adhérents de la CGT, parler de la retraite à 50 ans, par exemple. On a entendu ça dans un meeting de la NUP il y a deux jours.
Bah écoutez, déjà, si on gagne et on préserve la retraite à 62 ans, ça sera déjà bien. Voilà.
J'accueille un nouvel intervenant, c'est Raymond Soubi qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes président du cabinet de conseil Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vous étiez au cœur du pouvoir pendant la réforme des retraites de 2010. Il y avait eu à l'époque de très nombreuses manifestations. Elles ont dépassé plusieurs fois le million de manifestants. Et je m'appuie sur les chiffres, encore une fois, de la police. Ça vous rappelle des souvenirs, peut-être, la mobilisation du jour ?
Oui. En 2010, il y avait eu quatre fois plus d'un million de manifestants sur toute la France, sur plusieurs mois, ceci, sur plusieurs mois. Donc le fait que le million soit franchi aujourd'hui ne me surprend pas trop s'agissant d'une réforme des retraites et compte tenu de ses précédents.
Alors à l'époque, en 2010, on le rappelle, il y avait eu de très fortes mobilisations, mais la loi était passée, hein, 149.3, oui. Je précise.
Oui, la loi a été passée 149.3 parce qu'à l'époque, le gouvernement avait une majorité à l'Assemblée, je le rappelle aussi, et elle était passée pratiquement comme elle avait été annoncée, c'est-à-dire entre le mois de juin 2010 où elle avait été annoncée et sa promulgation, il n'y a pas eu de modification. Autrement dit, le gouvernement n'a pas bougé du tout sur le principe des 62 ans, ce qui explique d'ailleurs pour partie pourquoi les mobilisations, après avoir été très fortes un certain temps, se sont effilochées, je dirais, en raison du constat qui était fait que le gouvernement ne bougeait pas.
Alors, c'est quoi le grand enseignement aujourd'hui ? C'est une victoire pour les syndicats qui
il faut bien le reconnaître, n'avait plus réussi à mobiliser comme ça depuis assez longtemps. Il y avait les 800 000 manifestants du 5 décembre 2019, si mes souvenirs sont exacts, déjà c'était contre une réforme des retraites. Bon, ça faisait un bout de temps.
Oui. C'est un succès pour les syndicats, puisqu'ils avaient voulu cette journée de manifestation et qu'elle est manifestement réussie, premièrement. Je rappelle également qu'elle a été réussie sans heurts violents, alors qu'on pouvait quand même craindre qu'il y ait des débordements. Donc c'est une vraie réussite pour les organisations syndicales. La question maintenant pour ces organisations va être de savoir quel est le pas suivant. Mmh. Autrement dit, est-ce qu'elle réorganise, comme ça s'est passé d'ailleurs en 2010, une nouvelle, une deuxième, une troisième, une quatrième manifestation ? C'est très probable, je pense, c'est très probable. Étant entendu que c'est un processus aussi difficile à gérer par les organisations, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de manifestants a tendance à décroître. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans ces manifestations, il y a un objet de rejet qui est la réforme des retraites, ou de modification, mais aussi il y a toute une série d'ingrédients irritants qui portent sur les Français, la hausse des prix, le pouvoir d'achat, les problèmes qu'il peut y avoir à la suite des grèves de certaines corporations. Donc il y a une série d'irritants sur les salariés français et d'inquiétudes aussi sur l'avenir qui participent, je crois, aussi au succès de la mobilisation d'aujourd'hui.
Voilà, une agglomération d'inquiétudes. Fabien Villedieu, il va falloir transformer l'essai la prochaine fois. Déjà, est-ce que vous savez s'il y aura une prochaine grande mobilisation si vous pouvez nous le dire, est-ce que vous savez quand ce sera ?
Là, à l'instant T, non. Ce que je sais, c'est qu'il faudra avoir une unité syndicale. Et je crois qu'en 2010, l'unité syndicale était moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, un des ciments du succès de cette mobilisation, c'est cette unité syndicale qui est sans faille de la CFDT en passant par Solidaire jusqu'à la CGT. Et par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le contexte n'est pas du tout comme en 2010. Aujourd'hui, on a un contexte où on a déjà des crises. Mmh. On a une crise inflationniste comme on a rarement connue. Aujourd'hui, les Français, ils sont là, ils s'expliquaient comment ils vont pouvoir remplir leur frigo sans mettre 100 ou 250 euros sur la table. On a par ailleurs une crise énergétique qui alimente d'ailleurs cette crise inflationniste où on va tous avoir des factures, et pour le coup, pas que les salariés, hein, y compris les petites entreprises.
Peut-être qu'à Chaumont et Massy, elles seront peut-être moins élevées, hein, parce qu'il y a eu des coupures volontaires de la CGT aujourd'hui, revendiquées par la CGT. Voilà,
ça fera baisser les prix. Mais une crise énergétique qui risque d'ailleurs même, si ça se trouve, se transformer en crise économique, parce qu'il y a énormément de petites entreprises, PME, qui se retrouvent à avoir des factures de dingue et qui se posent des questions. Et par ailleurs, quand même une crise climatique qui est vachement plus importante aujourd'hui qu'elle n'était en 2010. Et là, on nous rajoute finalement une crise sociale. Donc c'est vrai que toute cette colère, cette agglomération de colère, c'est aussi le ferment du succès de la manif d'aujourd'hui et des prochaines.
Alors Marie-France nous appelle au 39-21, on va lui donner la parole dans quelques instants. Je voulais juste me tourner vers vous, monsieur le député Sylvain Maillard. Le calendrier est-il le bon ? Est-ce que c'est le moment de faire cette réforme des retraites ? C'est vrai qu'il y a tout un tas de problèmes qui s'accumulent en ce moment. Alors, on dit que le point de départ, c'est la guerre en Ukraine en février dernier, mais l'inflation était déjà galopante avant. L'inflation, la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat, en fait, qui n'en finit plus. Est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir le débat sur les retraites un peu plus tard ?
Non, il faut la faire maintenant, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons été élus, le président de la République a été élu en disant qu'il ferait cette réforme. Nous avons été élus, nous les députés de la majorité, en disant que nous ferons cette réforme.
Mais le plus important, vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée.
Vous avez raison, mais le plus important au fond, c'est de garantir, d'être sûr que les pensions resteront au même niveau dans les années qui viennent, de garantir un système où les cotisations payent les pensions. Et donc que nous soyons sûrs, les retraités actuels, mais les retraités à venir, qu'ils auront une pension. Et je crois que c'est notre responsabilité de ne pas être dépendant de financement d'endettement qu'on devra payer un jour ou l'autre et de ne pas être dépendant de financement à l'étranger. Donc moi, je crois que vraiment, il faut rester sur une réforme. On l'entend que c'est une réforme d'effort. On le dit. Oui, il faudra travailler un peu plus, ceux qui le peuvent, mais on accompagne ceux qui sont plus fragiles pour qu'ils puissent avoir des niveaux de pension de retraite plus importants. Et je crois que ça, c'est vraiment un des manquements dans le système actuel. Donc oui, nous l'améliorons, mais nous demandons aux Français un effort supplémentaire. On sait que c'est impopulaire. On le sait, Raymond Soubi l'a dit, ça a toujours été comme ça. Mais il faut tenir, parce que nous voulons garantir un niveau de pension de retraite pour tous les retraités maintenant et à l'avenir.
Écoutons Marie-France, donc, qui nous appelle au 39-21, le standard d'Europe 1. Bonsoir Marie-France.
Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, moi j'ai un souci là, enfin qui n'est pas un souci. Je me dis que le gouvernement a beaucoup de patience parce que nous sommes un des seuls pays en Europe à avoir conservé la retraite par répartition. Les gens devraient être bien heureux d'avoir cette répartition. Mmh. Si j'étais le gouvernement, je dirais, ben vous savez quoi, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas travailler, eh ben débrouillez-vous, faites-vous vos retraites vous-même, comme ça se passe ailleurs. Maintenant, c'est guère possible, il faudrait changer la Constitution. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens, moi je ne suis pas contre les manifestations, je ne suis pas contre ceci, contre cela, bon, je comprends qu'on manifeste, d'abord c'est un droit. Mais il faudrait quand même penser que peut-être cette répartition, si ça continue comme ça, il n'y en aura plus. Parce que si les gens ne veulent pas continuer à travailler un tout petit peu plus, un an, deux ans, qu'est-ce que ça change dans la vie ? Rien. Mmh. Hein ? S'ils ne veulent pas travailler un peu plus, la répartition, elle n'existera plus. Il n'y aura plus rien à répartir. Qu'est-ce qui va se passer ?
Merci beaucoup de témoigner ce soir sur Europe 1, Marie-France. Raymond Soubi, j'ai posé la question à Fabien Villedieu tout à l'heure. On a l'impression que c'est la valeur travail aussi qui est au cœur des débats ces dernières semaines.
Oui, c'est sans doute la valeur travail qui est dans les... Ce n'est pas l'élément central, je pense.
Plutôt le rapport au travail qui a changé.
Oui, le rapport au travail qu'on voit à différentes tranches de génération, d'ailleurs y compris et surtout parmi les plus jeunes aujourd'hui qui essaient de faire une carrière dans les entreprises. Donc la valeur au travail, en effet, peut changer. Cela dit, je rappelle encore une fois que ce que nous vivons là aujourd'hui, nous l'avons vécu depuis beaucoup d'années, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, tous les gouvernements ont abouti à reporter l'âge de la retraite, soit en le reportant en 2010, soit comme François Hollande en 2014, en allongeant la durée de cotisation, ce qui aboutit au même résultat. Et une mauvaise nouvelle quand même, c'est que la réforme, là, si elle passe dans l'état dans lequel elle est, où elle est, avec les compensations qui sont faites et qui coûtent à peu près 40% de ce que rapporte cette réforme, il faut savoir qu'elle va nous amener tranquille jusqu'en 2030, mais pas plus loin. Donc il faut savoir que dès aujourd'hui, même si la réforme passe en l'état, il y aura une autre réforme qui aura lieu vers 2028-2029 et qui aura pour effet aussi de reporter l'âge de la retraite. Et pourquoi ? Parce que la cause de tout ça, c'est des changements démographiques. Il y a des études très intéressantes qui sont sorties, vous l'avez vu avant-hier, et qui montrent que les naissances aujourd'hui ne compensent plus les décès, que la population vieillit considérablement, elle sera dans les années 30, pour 35% des Français qui auront plus de 65 ans, que c'est un phénomène inéluctable, baisse de la tête qu'on trouve d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, et qui fait que le régime de répartition que nous connaissons, il est menacé. Non pas parce que le gouvernement le menace, non pas tellement parce que l'économie le menace, mais tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de retraités pour moins en moins d'actifs pour payer leurs pensions.
Alors rappelons qu'aujourd'hui, plus de 21% de la population française a 65 ans ou plus. On marque une pause sur Europe 1 et on poursuit notre discussion. Appelez-nous au 39-21, vous êtes les bienvenus. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous sommes avec Fabien Villedieu du syndicat Sudrail, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Nous étions avec Raymond Soubi avant la pause, l'ancien conseiller aux retraites de Nicolas Sarkozy. Il nous a quittés à l'instant. On le salue et on le remercie chaleureusement, évidemment. On l'apprend également à l'instant, la prochaine journée de mobilisation intersyndicale. Il y avait une réunion pendant que nous débattions tout à l'heure entre les huit grandes centrales. La prochaine journée de mobilisation, je vais y arriver, c'est le 31 janvier prochain, donc pas la semaine prochaine, mais le lundi de celle d'après. Ça sera un mardi plutôt, on me dit dans l'oreillette. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps, Fabien de Villedieu, vous donnez quoi, une semaine pour reprendre du souffle, mobiliser encore plus ? C'est quoi l'objectif du 31 janvier ?
L'objectif du 31 janvier, ça, c'est les dates qui sont proposées par l'intersyndicale des grandes confédérations. Nous, les fédérations de cheminots, on se voit demain Et oui. Je peux vous dire qu'on proposera quelque chose d'autre.
Alors ça, ça voilà. Sera quoi des grèves. On va passer à la vitesse supérieure.
C'est-à-dire on verra demain.
Aujourd'hui, c'était une journée de grève.
On est clairement dans une logique de cranter. Voilà, c'est-à-dire augmenter le niveau de rapport
donc
de force.
Donc là, aujourd'hui, c'était une grève.
Donc je ne vous dirai pas, parce que la réunion, non, c'est demain. Et si je vous le dis, je vais me faire engueuler par le secrétaire de mon syndicat. Non, mais on est dans une logique de cranter.
Voilà, le degré supérieur, c'est la grève reconductible pour 48 heures, ensuite c'est 72 heures, ensuite c'est le blocage, la paralysie totale du pays. Hein. Ça vous arrangerait bien, ça, Sylvain Maillard, si des Français sont exaspérés par les cheminots ou les syndicats des secteurs de l'énergie, tous les secteurs stratégiques, hein, les raffineries, l'éducation nationale, également les professeurs.
Moi, ce que je veux, ce que nous souhaitons, nous, c'est d'expliquer la réforme. Pardon de revenir. Je voudrais vraiment, votre auditrice a dit quelque chose d'assez fort avant Raymond Soubi.
Marie-France qui nous parlait de
Marie-France
qui, sa crainte.
En fait, de son inquiétude des baisses de pension. Là, qu'est-ce qu'on demande? Pourquoi on demande un effort aux Français de travailler plus? Pas pour les embêter. C'est juste de garantir un niveau de retraite, faire en sorte que nos retraités, d'abord pour les plus précaires, ceux qui ont des plus basses retraites, puissent gagner un peu plus, et pour les autres, d'être sûrs d'avoir le même niveau de vie. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit « les retraites vont baisser à l'avenir ». Et donc on demande à ceux qui sont actifs de travailler un peu plus, ceux qui le peuvent de travailler un peu plus. C'est ce message, moi, que je veux faire passer ce soir. C'est pas le travail syndical, c'est leur problème. C'est à eux de s'organiser. Ils ont pas, c'est pas à moi de répondre à leur organisation. Mais c'est de dire aux Français la situation de notre système de retraite. Nous voulons garder le système par répartition. Et dire que le système de répartition, vous savez, quand vous arrivez à la retraite, vous avez un droit à la retraite. On n'a pas une cagnotte mise de côté avec l'ensemble de vos cotisations. Et donc, nous voulons garantir, dans une démographie, et Raymond Soubi a raison, une démographie difficile. Il y a de moins en moins d'actifs en France.
Il y a pas,
et donc, il y a, donc, pas y a moins en moins de monde pour payer les retraites.
Il n'y a pas une
donc
grande dimension familiale démographique hein, dans l'avant-projet d'amendement hein, pour instaurer cette réforme des retraites.
On est à 1,7 actifs pour un retraité. Donc on voit, et plus on avance, dans un peu plus de 10 ans, sera, un peu, 15 ans, pardon, sera 1,5. On voit bien que ça ne fait que se dégrader. Il y a de moins en moins d'enfants en France. C'est une réalité. Et donc, à un moment, si on veut garder un système par répartition et pas avoir un système par capitalisation, nous ne souhaitons pas ce système-là, il faut travailler un peu plus. Oui, c'était une réforme d'effort, mais ceux qui travailleront jusqu'à 64 ans, c'est ceux qui le peuvent. 4 Français sur 10 n'iront pas jusqu'à 64 ans.
Fabien Villedieu.
Alors, autant je suis d'accord pour dire qu'il y a de plus en plus de retraités, ça c'est vrai. Par contre, c'est pas vrai qu'il y a de moins en moins d'actifs. Il n'y a jamais eu autant d'actifs. Il y a une augmentation du nombre d'actifs.
Et ça, mais pas dans les mêmes proportions que l'augmentation du nombre de retraités. C'est toujours l'un par rapport à l'autre.
Et par ailleurs, non seulement il y a une augmentation du nombre d'actifs, mais les actifs n'ont jamais produit autant de richesses. Parce qu'on fait peur aux gens. En disant, bah, regardez, il y avait 3 actifs avec un retraité il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, l'actif d'aujourd'hui produit bien plus de richesses que l'actif des années 80. Donc aujourd'hui, et quand on voit d'ailleurs la France n'a jamais été aussi riche. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Mais il n'y a pas d'argent, mais les caisses sont vides.
Moi, c'est pas ce que j'entends sur le terrain. Moi, je crois que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup
la
de Français.
France
je pense que c'est difficile pour beaucoup de Français.
La France n'a jamais été aussi riche et les richesses n'ont jamais été aussi mal réparties. Les richesses n'ont jamais été aussi mal. Toutes les semaines, il y a des scandales sur le nombre de millionnaires, le patrimoine des plus riches, les bénéfices du... Toutes les semaines, ça tombe.
Mais là, on
donc,
il y
a un moment donné,
tout,
sans
là.
Faire son militant d'extrême
tout.
Gauche, on se dit quand même,
bah, si, quand même.
Vous pourrez prendre
non, mais
un
derrière,
petit peu...
Vous mélangez tout.
Là.
Derrière le thème des retraites, il y a beaucoup de questions qui en découlent. C'est un peu même chose à chaque fois.
Bien sûr. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des cotisations... Les retraites, hein, vous savez, c'est beaucoup dans notre produit intérieur brut. Nous, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, les cotisations, l'ensemble des cotisations doit payer l'ensemble des pensions. Mm-hmm. Pour qu'on soit sûr que quoi qu'il arrive, on ait confiance, nous qui sommes actifs autour de cette table, qu'on soit sûr que nous aussi, on aura droit à une retraite. L'inquiétude de la jeunesse, et je l'entends, c'est de se dire, au fond, nous, on n'aura pas de retraite. Parce qu'on a, dans un système comme le nôtre, par répartition, on a un droit à la retraite. On n'a pas une caisse noire quelque part qui nous protège et qui fera que nous aurons des retraites payées. C'est des actifs qui payent pour des inactifs. Et donc, il faut faire en sorte que ce soit équilibré. Et j'entendais Raymond Soubi qui dit qu'il y aura d'autres réformes des retraites. Un système par répartition, évidemment, au fur et à mesure, évolue. Parfois, il faut travailler un peu plus, peut-être un peu moins D'autres fois, quand ça s'améliore,
je pense aux Pays-Bas notamment,
on est dans une situation difficile.
On indexe le système de retraite sur un certain nombre de critères, on n'a pas besoin de faire des réformes, ça se fait.
Et le travail senior, on en a parlé tout à l'heure, il y a la question, on avance dessus, on a repris l'intégralité de ce que nous avait proposé la CFDT.
Et aux Pays-Bas, on travaille, c'est un système un peu mixte entre répartition et capitalisation, jusqu'à 67 ans. J'aimerais qu'on écoute Michel qui nous appelle au 3921. Bonsoir Michel.
Bonsoir à vous tous, merci de me laisser la parole.
Bah avec plaisir. Donc
je suis tout à fait d'accord pour la réforme des retraites, et ce qui serait souhaitable dans le cadre d'une justice sociale, c'est d'aligner les régimes de retraite complémentaires, les régimes de retraite. Il faut savoir qu'il y a 40 régimes qui sont sur le territoire national. Et s'il ne serait pas bon de faire un seul régime par répartition, et ne pas dire les 6 derniers mois, les fonctionnaires gagnent un peu plus, et ces gens-là, quand ils sont en retraite à 50-55 ans, vont reprendre de l'activité. Donc ça paralyse les jeunes qui cherchent du travail et qui sont au chômage. Donc je pense que la réforme, elle est profonde, et je suis à 90% pour. Voilà ce que je tenais à dire.
Cette réforme proposée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, elle est perfectible selon vous, hein?
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, le président Emmanuel Macron, qui était en Espagne aujourd'hui, a laissé la porte ouverte à des modifications. Alors, il parle d'enrichissement. On ne va pas toucher au décalage de l'âge de départ. Hein,
non, mais il faut absolument garder un système équilibré, sinon ça ne sert à rien de des retraites. Donc, ça ne sert à rien de faire une réforme.
Il y a beaucoup de syndicats qui proposent d'autres choses qu'augmenter les cotisations.
Mais aucun nous propose comment on équilibre les retraites. Et votre auditeur vient de dire une chose qui n'est pas tout à fait vraie. De dire qu'au fond, les seniors prenaient le travail des plus jeunes. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, tout à l'heure, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme totalement indépendant, dont les syndicats font partie, le dit très clairement dans tous les pays européens et occidentaux. Au contraire, plus le taux de seniors en emploi est important, plus le taux des jeunes est important. Donc, c'est pas un fromage, le travail. Plus on travaille, plus on crée du travail.
Mais il va falloir aussi convaincre vos propres collègues de la majorité présidentielle à l'Assemblée. On entend Barbara Pompili, par exemple, l'ancienne ministre, qui dit ne pas vouloir voter la réforme en l'état. Patrick Vignal, aussi élu de l'Hérault, qui a des remontées assez négatives du terrain. C'est la même chose, vous, qui allez peut-être sur les marchés, qui organisez des réunions publiques. Les Français comprennent votre raisonnement.
Cette réforme. Et cette réforme, c'est un engagement de campagne. Nous voulons préserver le système de retraite. Elle sera votée. Elle sera votée. Alors, des députés Renaissance voteront.
Et les Républicains aussi.
Et on a un accord avec les Républicains.
Bah,
écoutez, en tout cas, Éric Ciotti s'est engagé à la voter. Après, c'est à lui de tenir ses troupes. Il a été élu il y a quelques jours. Je suppose qu'il tient ses députés.
Est-ce que pour ne pas attiser les tensions, il faudrait éviter un recours au 49-3?
Mais nous, ce qu'on veut, c'est débattre à l'Assemblée nationale.
Alors,
après, ce que nous disent les oppositions, c'est qu'ils veulent déposer des centaines de milliers d'amendements.
Il y a plus de 70 000 amendements déposés.
70 000 amendements, ça veut dire qu'on ne peut pas discuter, qu'ils veulent paralyser et bloquer l'Assemblée nationale. C'est triste, hein, mais nous, on veut débattre projet contre projet.
On donne la parole à Fabien Villedieu avant de refermer ce débat. Fabien Villedieu, le président dit que maintenant, c'est place au débat parlementaire. Vous attendez peut-être quelque chose de vos députés?
Bah, nous,
tout va se régler dans la rue, selon vous?
Pas seulement, mais en tout cas, ça va se régler en partie dans la rue. En tout cas, voilà, nous, forts de notre succès, on va continuer tant que la réforme ne sera pas retirée. Mais vous savez, le discours de droit dans les bottes, on l'a déjà entendu, on l'a déjà connu. Mais je pense que ça n'intègre pas le rapport des Français avec la retraite. Ils y sont attachés à la prunelle de leurs yeux.
C'est pour ça que
ils sont prêts. Ah, et non, vous êtes en train de casser,
avec
monsieur,
un mauvais
vous cassez
niveau,
notre
c'est terrible.
Retraite.
Avoir une retraite,
et je peux
pas
vous dire que
les Français sont
attachés à leur système de retraite. Ça s'est vu aujourd'hui, oui. Ça se voit dans les sondages. 66% des Français ne veulent pas de votre retraite. Ça s'est vu aujourd'hui et ça se verra demain.
Et on n'a pas fini d'en reparler. Merci beaucoup Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris.
Merci
Fabien Villedieu,
à bientôt,
du syndicat Sudrail, qui nous annonce de probables grèves dans les trains la semaine prochaine. Affaire à suivre. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.